bienvenue dans le podcast Focus Immo Pacifique, le podcast qui va à la rencontre des investisseurs et professionnels de l'immobilier en Nouvelle-Calédonie. Vous souhaitez commencer à investir dans l'immobilier ou trouver de nouvelles sources d'inspiration pour vos projets? Ce podcast est fait pour vous.
Aujourd'hui, nous dépassons la thématique de l'immobilier pour parler placement financier, développement d'épargne, préparation de la retraite, prévoyance, droit de succession, fiscalité, SCPI et assurance. Des thématiques qui n'en sont pas moins importantes pour la gestion intelligente de son parc immobilier et de son patrimoine de manière générale, puisque l'immobilier est intimement connecté à ces questions. Guillaume Beckrich est responsable d'équipe commerciale et conseiller dans le domaine de l'assurance. Il est particulièrement pédagogique et maîtrise l'art d'expliquer simplement les choses compliquées. Il a fait de son métier une passion et nous partage ses conseils, son expérience au quotidien et sa vision sur le long terme. Avec lui, nous allons également parler de stratégies pour diversifier ses investissements, notamment à travers les placements en assurance vie, et nous explique les spécificités et les avantages de la Nouvelle-Calédonie. Après avoir écouté cet épisode, vous ne verrez peut-être plus votre assureur ou votre courtier de la même façon. Cet épisode du podcast est particulièrement riche d'informations et donc assez long, alors n'hésitez pas à le télécharger pour fractionner son écoute si vous n'avez pas le temps de l'écouter en une seule fois. Vous pouvez également utiliser la lecture accélérée en 1.5 de votre lecteur de podcast. Je ne vous en dis pas plus et laissons place à Guillaume Beckrich. Guillaume Beckrich, bonjour, merci de m'accueillir ce matin donc aux aurores, je dirais, parce qu'on est vraiment très très tôt aujourd'hui à
Nouméa,
avec le café dans ton bureau.
C'est ça.
Donc toi, tu es conseiller en fait dans le domaine de l'assurance, donc tu as beaucoup d'expérience dans tout ce qui est patrimoine, conseil pour les gens qui viennent te voir. Et donc c'est y a, donc t'as beaucoup de casquettes en fait au niveau de ton métier. Tu vas peut-être pouvoir mieux nous l'expliquer.
Ouais.
Et te présenter un peu, et on va également parler de ce qui nous intéresse aussi dans ce podcast, qui est l'immobilier.
Yes, pas de souci. Donc voilà, donc moi je m'appelle Guillaume, donc j'ai 41 ans. Donc dans la société du cas, enfin dans le cabinet Horizon dont je suis superviseur, donc c'est un manager en fait, donc je suis responsable d'une équipe commerciale et je fais partie donc d'un ce qu'on appelle un groupement d'intérêt économique en fait, donc c'est un rassemblement de plusieurs sociétés qui ont toutes vocation à permettre pour nos clients d'avoir une approche globale sur tous les domaines de l'assurance, donc autant en tout cas ce qui t'intéresse toi plus aujourd'hui, donc tout l'aspect patrimonial, c'est-à-dire développement d'épargne, préparation de la retraite, investissement financier, immobilier, mais aussi, et c'est complémentaire, tout ce qui touche à la protection de la famille, la protection de la personne, la protection des revenus, et en allant un peu plus loin, donc tout ce qui touche à la vie quotidienne, c'est-à-dire les assurances voitures, les assurances auto, bateau, les risques professionnels, et on a même il y a quelques temps ouvert une agence immobilière qui nous permet également de faire de la vente de biens.
Ouais, exactement. Ouais. Ouais. Donc c'est vraiment très très complet et c'est ça qui est intéressant, puisque toi tu gères un peu tous les côtés de tout ce qui est investissement et gestion de patrimoine, on va dire, pour la personne, et tu peux donc nous apporter pas mal de d'informations sur les choses que les gens se posent beaucoup de questions, surtout quand on n'a jamais investi dans l'immobilier, quand on n'a jamais fait de placement. Alors déjà, juste pour remettre un peu dans le contexte, on va pas raconter ton parcours d'investisseur immobilier comme on le fait parfois sur ce podcast, mais bon, déjà tu peux nous raconter un peu ce que t'as fait en termes d'achat immobilier pour toi.
Bon, c'est pas compliqué, moi j'ai juste acheté ma maison. Je suis déjà propriétaire, c'est pas mal.
C'est déjà ça, ouais.
Voilà. Alors moi c'est un peu particulier parce que mon parcours est je dirais particulier parce qu'en fait moi je suis venu très tard à ce métier parce que moi j'ai d'abord été militaire dans ma première vie.
D'accord.
Donc j'ai été dans l'armée pendant 11 ans et contrairement à plusieurs de mes copains, j'ai décidé d'arrêter un jour parce que ça m'apportait je n'y trouvais plus ce que j'y attendais, ce que j'en attendais. Et je me suis posé une question toute simple, c'est que je me suis dit qu'est-ce que je veux faire dans ma vie. Donc c'était soit je continuais et entre guillemets je stagnais quelque part, en fait, c'est comme ça que je voyais les choses, ou alors je prenais une porte de sortie quand elle se présentait. En tout cas, je saisissais une opportunité et je partais dans totalement autre chose. Donc en fait, je suis venu à ce métier d'assureur par hasard, totalement par hasard.
D'accord.
Parce que je me serais jamais imaginé un jour occuper ce genre de poste. Mais en même temps, c'est au travers de cet emploi, de ce travail, que j'ai découvert une certaine vocation, parce qu'en fait, je me suis découvert l'envie d'aider les gens, parce qu'en fait, dans notre métier, c'est vrai que la plupart des gens peuvent dire « Ouais, voilà, c'est un assureur, il est là pour vendre des produits, pour vendre du... » Oui, c'est vrai, dans un sens, la vocation, la finalité de notre métier, c'est de vendre des produits. Mais moi, je me vois comme un accompagnant, comme un accompagnateur.
Ouais,
parce
que
dans notre métier, quand les gens viennent nous voir, ils viennent nous voir parce qu'ils, voilà, comme tu disais, ils sont dans l'interrogation.
Mmh.
Ils ne savent pas comment faire, ils ne connaissent pas la façon dont les choses fonctionnent. Et on est là pour... alors, je ne sais pas si l'image est correcte, mais on est là pour les prendre par la main et puis pour les aider à avancer dans leur projet.
Ouais, ouais.
Enfin, moi, c'est comme ça un peu que je vois les choses.
Ouais, tu vois, c'est exactement ce que j'ai ressenti quand on s'est rencontrés pour la première fois.
Ouais.
J'ai vraiment appris énormément de choses. Alors, je m'intéressais déjà depuis quelques mois, tu vois, au patrimoine et tout ça. Donc, c'est vraiment pour ça que je voulais te rencontrer aussi pour le podcast.
Ça fait plaisir, en tout cas, que tu aies ressenti ça, parce que c'est...
Et on sent vraiment chez toi, il y a quelque chose qui t'anime et tu prends aussi
moi, je vois pas
plaisir
notre métier,
à accompagner les gens.
Moi, je vois pas notre métier autrement que comme ça, parce que, comme je te disais, les gens, quand ils viennent chez un assureur, ils ont toujours un a priori. Ils voient la casquette assureur. Ils se disent, je viens chez un assureur, donc on va me vendre un truc, dans tous les sens. Alors que... En tout cas, c'est la philosophie que j'ai de ce métier et c'est celle que j'essaye de transmettre, que je transmets à mon équipe, c'est de leur dire on n'est pas là pour forcer des choses. On est là pour, au contraire, amener les gens à se poser des questions et à mener des réflexions qu'ils n'auraient pas eues s'ils n'étaient pas venus nous voir. Parce que, comme tu le disais, aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, avec Internet, on a accès à énormément de choses. On peut se documenter, on peut se renseigner.
Ouais.
Mais on a rarement, je trouve... Enfin, en tout cas, ce qui manque dans ces choses-là, c'est le côté humain.
Ouais, c'est vrai.
C'est-à-dire que on a de l'information, mais on ne sait pas forcément comment l'utiliser ou comment l'interpréter. Et là où nous, on a justement cette valeur ajoutée, c'est qu'on va être là, bon, alors pour compléter ou pour amener de l'information inexistante, pardon, mais on va permettre aux gens de se mettre dans le contexte, de se mettre en situation, de dire aujourd'hui vous avez tel profil d'investissement ou vous avez tel objectif à atteindre d'ici quelques temps, mais y a plusieurs solutions, mais aujourd'hui on va regarder comment
elle s'organise par rapport au profil de la personne.
Ouais,
en fait,
ou comment les choses pourraient se faire dans la réalité.
Ouais, c'est ça. Ouais.
Et là, on projette les gens dans quelque chose. C'est pas une information sans interprétation, c'est une information et une mise en situation. Donc, du coup, on amène les gens à visualiser ce qui va pouvoir être fait, comment est-ce qu'ils vont pouvoir le faire, quels résultats ils pourraient avoir en fonction de ce qu'on choisit comme outil, comme disposition. Et du coup, ça leur permet tout de suite de d'avoir une mise en relief.
C'est beaucoup plus concret, quoi, je dirais. En fait,
c'est la finalité de la démarche quelque part.
Ouais, finalement, la première étape, c'est en fait faire un peu un état des lieux du profil de la personne, puisque souvent les gens ne savent pas forcément ce qu'ils veulent à la base.
Très honnêtement, je pense qu'aujourd'hui, on ne peut pas envisager que ce soit un investissement financier, un investissement immobilier, une préparation d'épargne, toute simple, c'est de se dire simplement je mets de l'argent de côté. Je pense qu'on ne peut pas envisager ce genre de choses sans un bilan.
Ouais, c'est ça.
C'est-à-dire que la première chose qu'on fait, nous, dans notre métier, c'est de faire un bilan, c'est de faire une analyse. Donc on pose plein de questions qui parfois n'ont rien à voir avec la demande initiale. Les gens sont parfois un peu surpris parce qu'on leur pose des questions très personnelles. Je veux dire, nous, on est dans un métier où on a besoin du détail. C'est-à-dire qu'on pose des questions. Les gens nous disent des choses qu'ils disent parfois même pas à leur conjoint ou à leur famille, parce que c'est quelque chose de très personnel. Mais en même temps, on a besoin de cette honnêteté, de cette transparence, parce que, en tout cas, là, c'est mon ressenti. Moi, j'estime qu'on ne peut pas travailler sereinement, on ne peut pas mettre en place de projet sereinement s'il n'y a pas de confiance et et d'échange mutuel.
Et ouais,
c'est un peu le parallèle avec la communication, c'est qu'il doit y avoir de la communication. C'est pas quelque chose qui va à sens unique. Ouais, c'est-à-dire que moi, il faut que je sois transparent dans les informations que j'apporte, dans les éléments que je donne, mais en même temps, il faut que la transparence, elle soit réciproque.
Mais ouais.
Parce que si moi, j'ai pas une transparence de l'autre côté, bah finalement, j'ai pas tous les éléments pour me faire une idée précise.
Et du coup,
de la situation et du profil.
Ce que tu peux proposer va pas forcément correspondre à la personne.
Exactement.
Et c'est vrai qu'on peut parfois en tant que novice, tu vois, c'est vrai que c'est, on peut se dire, ah, c'est juste technique, c'est un placement, point barre. Mais en fait, il y a quand même ce côté psychologique, il y a ce côté confiance qui joue derrière et qu'on nommait peut-être au départ.
Ah, tu sais, moi, je me mets toujours dans la, j'essaie toujours de me mettre à la place de mes clients quand ils viennent me voir. Moi-même, je suis un client quand je me balade, quand je vais acheter des choses, quand moi-même je me renseigne pour ça. Je suis un client et moi j'ai un adage toujours. Je me dis toujours, ne fais pas aux autres ce que tu voudrais pas qu'on te fasse. Donc du coup, je me dis, mais moi, est-ce que j'aimerais qu'on se comporte comme ça avec moi, ou est-ce que j'aimerais qu'on ait cette attitude vis-à-vis de moi. Donc voilà. Je pense que c'est la base de toute relation, qu'elle soit commerciale, privé ou autre, faut de la transparence. Et puis il faut dire les choses comme elles sont. Je veux dire, il n'y a pas besoin de chercher midi à 14h ou de dire ah bah oui mais non. Surtout en Calédonie, j'ai jamais officié moi en métropole, donc j'ai une idée un peu de comment ça se passe, mais je trouve qu'en Calédonie on a cette chance que on peut être nous-mêmes avec les gens, on peut dire les choses, et j'irai même plus loin, les gens sont en attente de ça. Ils aiment pas les gens qui cherchent à noyer le poisson, qui sont pas clairs. Voilà, c'est blanc, c'est noir, c'est gris, c'est gris. On le dit tout de suite. Je pense qu'aujourd'hui, on a des vies tellement dingues que, on n'a pas envie de perdre de temps à écouter quelqu'un.
Ouais, c'est ça aussi.
Non, voilà, il y a des choses, elles sont comme elles sont. Alors parfois ça plaît, des fois ça plaît pas, mais je pense qu'au final, même si ça plaît pas, quand c'est dit et on peut passer à autre chose et on peut avancer.
Tout cas, je pense ta spontanéité, ton enthousiasme, je pense que ça doit plaire aux clients, je pense effectivement. Est-ce que tu peux nous raconter, du coup, tu disais que t'es arrivé un peu dans ce métier par hasard, pour un peu raconter après peut-être ton investissement et rentrer peut-être plus dans le vif du sujet de l'activité.
Bien sûr.
Du coup, t'as quitté l'armée, t'es arrivé dans une société
En fait, on m'a donné ma chance.
Okay.
Clairement, c'est à dire que j'ai eu cette énorme chance de rencontrer donc le directeur du groupe.
D'accord.
Par l'intermédiaire donc d'une relation qui m'a donné ma chance, tout simplement.
D'accord.
Parce que je suis un autodidacte pur dans ce métier là
okay.
J'ai eu la chance de rentrer dans ce milieu à une époque où on avait encore la possibilité d'apprendre le métier
sans forcément avoir le diplôme
sur le tas.
C'est ça, en fait.
C'est-à-dire que moi, je suis arrivé dans le monde de l'assurance, j'y connaissais rien du tout. J'étais j'avais mon assurance voiture, mon assurance maison, mais j'en connaissais pas plus que ça. Et grâce à l'armée avec qui j'ai bénéficié d'un dispositif de reconversion en
entreprise. Ouais, d'accord.
J'ai intégré le GIE, à l'époque le GIE n'existait pas, mais j'ai intégré le cabinet Horizon et j'ai appris le métier avec mes collègues, avec.
Et là, du coup, tu remontes à quelle année? Ça fait combien
C'était
de temps?
En 2010.
Donc, en 2010,
ça va faire 8 ans que je suis dans ce métier-là. Et donc aujourd'hui, vous voyez, l'évolution est extraordinaire parce que en 8 ans, d'un pur novice dans le métier à aujourd'hui, je suis responsable
professionnel, gestionnaire, etc.
Je fais de la gestion financière. Donc c'est extrêmement enrichissant autant professionnellement qu'individuellement. Enfin, moi j'ai énormément appris sur moi-même.
Ouais, d'accord.
Grâce à ce métier-là, je pense que j'ai une vision des choses et de la vie que j'aurais pas eu si j'avais pas travaillé dans ce domaine-là.
Ok. Enfin, ok.
Très clairement.
Du coup, pour rentrer un peu plus dans le vif du sujet, alors pourquoi on s'intéresse à se constituer, on souhaite se constituer un patrimoine, pourquoi on souhaite se préparer à la retraite, pourquoi on aimerait avoir des revenus complémentaires maintenant ou pour plus tard, c'est un peu toutes ces questions qu'on peut se poser. Moi, je viens de voir aujourd'hui, je te dis, voilà, j'aimerais faire un placement financier pour faire travailler mon argent, mon épargne. J'aimerais peut-être investir dans l'immobilier avec des produits de type SCPI. J'aimerais préparer ma retraite. En même temps, j'ai des enfants. Alors, qu'est-ce que tu me dirais?
Qu'est-ce que je dirais? On va mettre tout ça de côté. Et c'est moi qui vais poser les questions.
C'est ça.
Voilà, c'est-à-dire que là, moi, par exemple, un cas typique d'une personne qui vient me voir en me disant tout ça. Alors, c'est marrant parce que c'est pas souvent le cas, mais souvent les gens ont plein d'idées, mais elles ne sont pas organisées. Elles ne sont pas organisé. Donc du coup, nous, on va orienter quelque part.
D'accord.
Là, notre rôle, ça va être de prendre la débroussailleuse et puis de faire un peu le tri dans toutes les idées de manière à voir lesquelles sont les plus importantes, lesquelles sont plutôt secondaires, de manière à amener un ordre de priorité dans les objectifs. Et une fois qu'on aura travaillé cette idée d'objectif, on va travailler tout ce qui va venir derrière, c'est-à-dire les moyens, les critères, et ça va passer par cette fameuse analyse, par ce fameux bilan.
D'accord.
Parce que là, on va rentrer dans le détail de la vie des gens, parce qu'on n'a pas le choix, on est obligé de le faire. Donc on va poser toutes les questions sur la situation personnelle, donc la situation de famille, comme tu disais, s'il y a des enfants, s'ils sont mineurs, majeurs. Un facteur très important, ça va être le régime matrimonial. Si les gens sont mariés, s'ils ne le sont pas.
Ouais, on va peut-être aussi en parler après.
Voilà,
ce qui concerne la succession
de mariage. Parce que tout ça, ça oriente un investissement. Parce qu'on ne va pas investir, que ce soit de l'immobilier ou du financier, peu importe.
Ouais.
Mais on ne va pas investir de la même manière si les gens sont mariés sous un régime communautaire, par exemple, ou bien s'ils sont sous un régime séparatiste. Parce que ça amène des obligations, comme tu le disais, en termes de succession, même juridique, par rapport au simple fait du contrat de mariage. C'est quelque chose qui amène des obligations. Pareil pour les PACS, on en parle peu, mais les PACS sont une disposition dont on doit tenir compte dans des orientations patrimoniales. Et on va poser ensuite toutes les questions sur comment on appelle ça, sur la situation financière des gens. Donc combien ils gagnent.
Alors, sans passer par toutes les questions que tu poses, est-ce que tu peux c'est hyper intéressant, mais disons pour que ce soit un peu plus concret pour les gens, est-ce que tu peux définir deux ou trois situations types que tu vois avec des produits que tu peux proposer en face? Par exemple, la situation d'une personne célibataire qui a un petit pécule, qui a un petit capital, qui a épargné quelques années, qui n'a pas forcément grand-chose, mais qui souhaite investir. Après, peut-être la situation... père de famille.
Encore une fois, ça va être difficile de te donner des cas concrets parce qu'en fait, il y en a pas. C'est toujours des cas spécifiques, c'est toujours de l'étude au cas par cas parce que même si on va avoir, si tu veux, des objectifs qui vont très souvent revenir, c'est souvent les mêmes objectifs qui reviennent. C'est mettre de l'argent de côté, c'est prévoir la retraite, protéger ses enfants ou sa famille. Généralement, c'est très souvent les mêmes objectifs qui reviennent. On a rarement des objectifs très particuliers. En même temps, la façon dont on va travailler l'objectif va être différente d'une personne à une autre. Et on retrouve très rarement le même cheminement, si tu veux, dans l'accession à l'objectif. Je ne sais pas si je m'exprime correctement.
Ouais, je comprends, c'est pas forcément évident, mais sans faire de conseils, tu vois.
Par exemple, pour répondre à ta question.
Juste un petit exemple.
Un cas concret qu'on a très souvent, c'est des gens qui sont dans la vie active, qui ont des revenus, mais qui n'ont pas forcément pensé à prendre des dispositions pour... très souvent, les gens aujourd'hui, ils ont un compte épargne à la banque. Ils mettent un peu d'argent de côté tous les mois. Mais
la situation
plus loin.
Classique.
La situation classique. Donc là, on va s'attacher à leur faire visualiser l'intérêt qu'il y a à travailler... un principe d'épargne, mais par de l'assurance vie par des produits bancaires, parce que ce sont des produits très différents, sans rentrer dans le côté technique. Mais aujourd'hui, il est très clair que les produits bancaires sont une nécessité. Je veux dire, on en a tous. Le conjoint, le compte épargne est une nécessité. Mais dans notre vision des choses, on part du principe que le produit d'épargne à la banque n'est pas un produit d'accumulation. Il n'est pas là pour que les gens en mettent le plus possible.
Ouais.
C'est pas fait pour ça. Le produit d'épargne bancaire, c'est un outil pour mettre de l'épargne de précaution. C'est-à-dire que c'est de l'argent qui est mis de côté, qui est disponible tout de suite, le plus rapidement possible.
Ouais, c'est ça.
Mais pour faire face aux aléas de la vie courante, c'est-à-dire des impôts, des vacances, une panne de voiture. Mais voilà, c'est de l'épargne dont on peut avoir besoin très vite, tout de suite. On fait des virements compte à compte, c'est simple.
Ouais, tout à fait.
L'assurance vie, on est dans la même idée maîtresse, hein, c'est-à-dire c'est de mettre de l'argent de côté, mais on va pas la travailler sur le même principe. Là, on va travailler sur un principe d'accumulation à long terme.
D'accord, ouais, c'est ça. Ouais.
Voilà. Et ce principe d'accumulation à long terme, il est présent avec en toile de fond tout ce que les gens peuvent rechercher comme outil pour justement protéger un conjoint, protéger les enfants. Si demain il arrive quelque chose, comment ça se passe au niveau fiscal, pour les impôts, pour les bénéficiaires, toutes ces choses-là. Et l'assurance vie amène justement les outils qui permettent d'avoir ces avantages, contrairement aux produits bancaires qui n'en offrent aucun.
Alors, si tu peux nous décrire un peu l'assurance vie, ce fameux contrat d'assurance vie, on entend parler parfois souvent. On peut y mettre différentes choses à l'intérieur.
C'est ça.
Et on peut aussi le définir par un objectif de rendement, c'est-à-dire un pourcentage annuel de gains qu'on peut espérer avoir chaque année, en fait. Hein.
Là, très concrètement, si tu veux, un contrat d'assurance vie, en tout cas, moi, c'est comme ça qu'on le présente. Le contrat d'assurance vie, c'est une enveloppe fiscale. Mmh. C'est-à-dire qu'elle va, c'est une enveloppe qu'on va ouvrir et qu'on va alimenter. Ou par des versements mensuels, semestriels ou autres.
Comme un compte épargne finalement.
Exactement. Ou des versements exceptionnels que tu veux faire en one shot quand tu as un peu d'argent de côté ou quand tu as une prime, des dividendes, n'importe quoi. Boum, tu mets des primes en direct. Et après, une fois que cette enveloppe est ouverte, en fait, on fait ce qu'on veut. Et c'est aussi là où l'analyse de départ est très importante parce que c'est cette analyse qui va nous permettre de trouver le meilleur produit, le meilleur contrat.
Ouais, ouais.
Parce que dans l'absolu, les contrats, tous les contrats d'assurance vie ressemblent. Hein,
ouais, ouais.
Même, je dirais même que en termes de d'avantages ou d'outils, tous les contrats d'assurance vie les donnent. Maintenant, les partenaires avec lesquels on travaille vont eux amener chacun leur particularité.
Ouais, ouais.
Et on va pouvoir faire certaines choses avec certains contrats qu'on pourra peut-être pas faire avec d'autres, par exemple. Mais comme tu le disais, le but de toute opération sur les contrats d'assurance vie, c'est de gagner de l'argent. Je veux dire, on n'est pas là.
Bien sûr, on est là pour parler de ça.
Voilà, les gens, quand ils mettent de l'argent de côté, alors oui, il y a une volonté de protéger son patrimoine, de protéger sa famille. Mais en toute honnêteté, tout le monde veut gagner de l'argent.
Voilà.
Le but aujourd'hui, c'est de faire des opérations pour avoir un résultat. Et là, on rentre dans le vif du sujet parce que on va travailler des dispositions internes au contrat d'assurance vie, qui vont permettre de développer. Et là, on a, comme tu le disais tout à l'heure, on a plusieurs leviers à disposition. On a soit les placements financiers en bourse, par exemple, en fonction des profils de chacun, mais on adapte les stratégies d'investissement au profil de chaque personne. L'idée, c'est de coller au mieux. Ce qu'on appelle dans notre jargon, c'est l'appétence au risque, c'est-à-dire quels risques ils sont prêts à prendre dans leur investissement. Est-ce qu'ils sont prêts à perdre un peu d'argent si l'on place les capitaux sur des produits un peu plus volatiles, par exemple. Donc voilà, on va adapter nos stratégies financières aux volontés de nos assurés, de nos épargnants. Encore une fois, hein, je reviens sur le principe de transparence. On peut travailler sur des outils en immobilier.
Ouais, parlons-en un petit peu aussi.
Les fameuses
SCPI. Parce que finalement, l'assurance vie, c'est une enveloppe, comme tu dis. On peut y mettre des produits financiers via la bourse. Donc, ça peut être acheter des actions.
Exactement.
Un portefeuille. Alors, c'est des fonds d'investissement, souvent.
C'est des fonds d'investissement.
Qui sont intégrés en partie. Et on peut mettre des parts de différents fonds, hein, si j'ai compris le principe, départ de produits immobiliers, départ et finalement
de l'immobilier, on n'en aura pas en unité de compte, on n'en aura pas sur les produits boursiers. Là, quand j'entends produits immobiliers, c'est vraiment des SCPI, donc c'est d'accord, vraiment des sociétés civiles de placement immobilier.
Toujours dans le cadre de l'assurance vie.
Mais toujours en alors les SCPI pour développer un peu le sujet, parce que c'est ouais. un peu le fond du sujet. Les SCPI, si tu veux, tu peux en acheter en direct. Mm-hmm. Tu vas sur internet aujourd'hui, tu trouves des sociétés qui vendent de la SCPI, mais la problématique qui se pose en réalisant ce type d'opération, c'est que elle se fait. Je ne sais pas si je vais le dire de manière assez simple, mais si tu veux, quand tu achètes de la SCPI en direct, c'est comme si tu achetais un bien immobilier. La SCPI, c'est un bien immobilier, sauf que c'est un bien immobilier quelque part virtuel, parce que la SCPI, tu deviens actionnaire d'une société qui possède un parc immobilier. Mmh. Et donc ensuite, tu perçois des rémunérations en fonction de ta participation dans cette société.
C'est ça. En gros, ça correspond un peu aux loyers qui sont
c'est ça.
Récupérés. Tu prends ta part en fonction
c'est
de
ça. L'intérêt dans la SCPI, le truc sympa, c'est que tu es plus ou moins déchargé de la gestion parce que tu as une société qui s'en occupe.
Ouais, c'est ça l'avantage.
L'avantage de le faire grâce à l'assurance vie, c'est que alors il y en a plusieurs des avantages. Le premier immédiat que l'on va rencontrer, ça va être une baisse des frais d'acquisition.
D'accord.
Moi, je présente ça un peu comme des frais de notaire. Quand tu achètes une maison en dur, tu payes ouais. des frais de notaire.
Ouais, effectivement.
Quand tu achètes de la SCPI, c'est pas des frais de notaire, ce qu'on appelle des frais d'acquisition, mais c'est plus ou moins la même chose. Ouais, sauf que là, du coup, ils sont beaucoup plus faibles que si tu achetais un bien en direct. Par exemple, d'accord. aujourd'hui, tu achètes une maison, tu as des frais de notaire entre 12-13%.
Ouais, c'est ça. Pour enrichir en tout cas en Nouvelle-Calédonie.
En Nouvelle-Calédonie, tu achètes de la SCPI, on va avoir des frais d'acquisition qui vont tourner entre 6-8%.
Ok.
Déjà, ça permet d'avoir un levier à ce niveau-là.
D'accord. Et du coup, dans le cadre de l'assurance vie, tu peux encore.
Alors, ce levier de frais, de baisse de frais, justement, tu l'as grâce à l'assurance vie.
D'accord.
Tu l'as pas okay. en direct.
Sinon, ce serait ce taux, le taux
sinon,
normal.
Sinon, ce serait okay. globalement ce taux-là. Après. L'autre avantage que tu as à le faire en assurance vie, là, il va être fiscal. Mmh. Parce que quand tu achètes de la SCPI en direct, c'est un bien immobilier. Donc, tu es dans un cadre de revenus fonciers si tu perçois des loyers, ce genre de choses.
Ouais, c'est ça. Hein.
Alors que grâce à l'assurance vie, même si tu investis dans des SCPI, dans le contrat, tu restes dans le cadre fiscal du contrat, c'est-à-dire un cadre fiscal assurance vie.
Ouais, c'est
et
ça.
Donc du coup la fiscalité des plus-values réalisées n'est pas du tout la même
c'est
et
ça, ouais.
de facto est beaucoup plus avantageuse
ouais,
pour
ça.
L'épargnant
et c'est vraiment l'intérêt de ce levier hein, de l'assurance vie dans le domaine
c'est
d'épargne ce de société immobilière
c'est ce qu'on met en avant après bon bien évidemment il y a le levier financier qui vient en plus bien sûr mm-hmm. puisque là on revient sur ce principe de loyer qui sont perçus régulièrement
ouais, ouais.
avec bien évidemment les revalorisations des parts, puisque là du coup on est actionnaire de la société, mais
ouais,
lorsque
ça, ouais.
les biens prennent de la valeur, et ben automatiquement les parts prennent de la valeur
exactement.
Aussi, donc on a un double levier financier derrière. Mais qu'on soit très clair, moi je mets toujours en garde les gens, la SCPI c'est un excellent investissement patrimonial, mais on doit toujours garder à l'idée que c'est quelque chose qui doit se faire sur de la durée.
Mmh.
C'est-à-dire que moi, aujourd'hui, je ne conseille jamais un investissement en SCPI pour une durée de moins de 5 ans, par exemple.
D'accord.
Je pars toujours sur un minimum de 5 années d'investissement pour proposer
et, ce temps minimum, en fait, c'est une manière à bénéficier des avantages fiscaux du contrat d'assurance vie. Il y a une autre raison. Parce qu'on peut le rappeler, il y a un temps...
Alors, c'est surtout un principe ouais. d'amortissement. C'est-à-dire
d'accord.
que, comme je le disais tout à l'heure, il y a les frais d'acquisition
ouais.
qui sont pris sur le capital investi. Mais comme on est sur un contrat d'assurance vie, il y a également des frais d'entrée sur le contrat.
D'accord.
Imaginons qu'on n'ait pas de contrat, on en ouvre un pour réaliser cette opération. On a les frais d'entrée
ouais,
du contrat.
Du coup,
qui
c'est des frais classiques, c'est quoi? C'est 2, 3 000 euros, ça peut être autour de ces prix-là.
En fait, c'est des pourcentages, mais les frais d'entrée sur un contrat sur lequel on a des SCPI, aujourd'hui, il faut compter 4,5%. Donc si on ajoute okay. des frais d'acquisition de SCPI à 6 et 8%, on va tourner sur un taux de frais moyen de 12-13%. Donc on revient sur des
okay.
frais entre guillemets classique notaire en investissement direct
okay.
mais voilà c'est pour ça que moi je conseille toujours cette durée minimum de 5 ans d'investissement parce qu'on va partir du principe que sur ces 5 années on va avoir on va dire 2 à 3 années d'amortissement
okay.
puis ensuite entre 2 et 3 années de plus-value, de prise de bénéfice
okay, ouais, je vois.
Si on le faisait sur une durée moindre ce serait une opération blanche. Mmh.
Bah, c'est un peu comme un investissement immobilier classique, hein, vu les frais de notaire, en, voilà. En général, le temps de les amortir,
sauf
entre guillemets.
C'est une super occasion.
Ouais, si t'achètes en dessous du marché, voilà, t'as une super occasion, tu peux tout de suite faire la plus-value.
Mais voilà, on est toujours dans cette idée d'amortissement, parce que, il y a des frais, comme dans toute opération financière, il y a des frais, donc il faut tenir compte de ces frais, et il faut surtout pas les éluder, parce que c'est quelque chose qui conditionne la façon dont est réalisée l'opération.
Alors, est-ce que tu peux nous expliquer un peu la fiscalité dans le cadre du contrat d'assurance vie, que ce soit dans un produit financier ou via ces systèmes de SCPI? Alors, c'est les fameux 8 ans à attendre, en fait, avant de pouvoir retirer des gains et d'être moins imposé, en fait.
Le cadre fiscal, il est très simple en assurance vie. C'est-à-dire que, et on a de la chance, parce qu'en Nouvelle-Calédonie, on a une fiscalité très avantageuse.
Encore plus avantageuse qu'en métropole.
C'est ça.
C'est ça.
Donc aujourd'hui, en Nouvelle-Calédonie, pour tous les produits d'assurance vie, donc lorsqu'il y a des... je m'exprime mal, je vais le redire. Mm-hmm. Entre 0 et 8 ans, la taxe qui s'applique sur les plus-values s'élève à 10%.
D'accord.
10%, donc on a 8% d'IRCDC et 2% de CCS, la contribution calédonienne de solidarité.
D'accord. Et le premier, c'est, comme une taxe, en fait.
C'est l'impôt sur...
Ouais, bon, c'est un impôt.
Ouais, enfin, je vais te dire quand même, parce que c'est quand même important, mais
étant 10%, ce qui est vraiment pas grand-chose.
C'est très faible.
Avant 8 ans.
Par exemple, depuis le 1er janvier 2018, en métropole, on a le prélèvement forfaitaire unique qui a été voté et qui donne un prélèvement de plus de 30% sur les plus-values réalisées. Donc c'est énorme. En Calédonie, on a cette chance d'avoir cette fiscalité avantageuse. Voilà, donc l'IRCDC, c'est l'impôt sur le revenu des créances, dépôts et cautionnement.
Voilà. D'accord.
Impôt sur le revenu des créances, dépôts et cautionnement. Aujourd'hui en Calédonie, donc de 0 à 8 ans, lorsque tu réalises un rachat, donc un rachat c'est quand tu récupères des fonds de ton contrat, tu es taxé à hauteur de 10% sur les plus-values réalisées. Passé cette durée des 8 ans, il n'existe plus que la CCS.
D'accord.
Donc du coup, au-delà de 8 ans, on est imposable qu'à hauteur que de 2% des plus-values réalisées.
Ouais, donc ce qui est vraiment...
C'est extrêmement faible. C'est
quasiment pas imposé, quoi.
Exactement.
8 ans. Ouais.
Et aujourd'hui, au-delà de ça, ce qu'il faut voir encore, alors là, je vais vraiment très loin dans le temps, mais c'est un des piliers de l'assurance-vie, c'est que les fonds sont exonérés de droits de succession. Donc aujourd'hui, quelqu'un qui va faire un investissement en assurance-vie va rechercher des leviers fiscaux immédiats, des leviers financiers pour développer une performance, un patrimoine, un capital. Mais on va également développer cette disposition successorale qui est justement que s'il arrive quoi que ce soit, si malheureusement la personne disparaît, elle organise déjà la transmission d'une partie de son patrimoine grâce au contrat d'assurance vie pour que ses enfants, son conjoint, ou toute personne, puisque l'assurance vie, globalement, on peut mettre qui on veut. Alors attention, je mets une aparté, parce que on peut mettre qui on veut, mais c'est pas tout à fait vrai, dans le sens où il y a toujours cette notion d'abus de droit.
D'accord.
Qui est à respecter dans le droit français pour ne pas déshériter les enfants. Donc ça, c'est quelque chose qu'on développe aussi en détail. Mais voilà, ça permet à une personne de transmettre du capital, du cash, grâce à l'assurance vie.
D'accord.
Une exonération totale de droits de succession en cas de décès. Et ça, c'est une disposition très importante parce que ça permet justement de travailler sur un principe d'optimisation du patrimoine, notamment dans sa transmission. Puisque généralement, les gens... Là, je vais peut-être développer un point que tu voulais poser à
un peu plus tard,
ça fait le lien. C'est-à-dire que aujourd'hui en Calédonie, on se rend compte très souvent que les gens investissent beaucoup en immobilier. Mm-hmm. Et à juste titre, parce qu'un investissement immobilier aujourd'hui, c'est quelque chose de rentable et de protecteur. En même temps, les gens investissent très peu en financier.
Ouais.
Pourquoi ? Parce que dans leur vision des choses, encore une fois, ils ne voient pas l'intérêt de le faire. Pour eux, c'est pas intéressant d'investir en financier alors qu'ils peuvent faire de l'immobilier. Parce que l'immobilier, il constitue un patrimoine, l'argent est placé... les rendements sont intéressants.
Ouais. C'est pressenti souvent un peu plus sécuritaire et stable.
Et puis souvent, on en revient toujours à cette idée aussi de préparer la retraite, c'est qu'ils se disent, moi, un bien immobilier, ça va me ramener des revenus, ça va me créer des compléments le jour où je serai à la retraite. Et puis si j'en ai pas besoin, je peux le revendre, je récupère du capital. Mmh. C'est tout à fait logique. Maintenant, la contrainte que l'on rencontre avec cette vision, c'est que le jour où malheureusement la personne disparaît, et ben là on a une problématique majeure qui est donc la transmission du patrimoine. Parce que là, du coup, tout ce qui est fait en immobilier,
ouais,
ou en tout cas pour généraliser, tout ce qui est fait hors cadre de l'assurance vie, tout rentre dans l'actif successoral. Et à ce titre, il y a les impôts sur la succession qui sont calculés sur la valeur globale du patrimoine qui constitue cet actif. Et là, nous, notre rôle va être de conseiller donc nos clients en leur donnant des solutions justement pour alléger au maximum cet actif de manière à alléger au maximum l'impôt sur la succession. Et l'assurance vie est l'outil majeur qu'on utilise dans ces...
Alors, la succession, c'est vrai, quand on a 30 ans ou 40 ans, on n'y pense pas forcément. Et c'est et comme tu dis, c'est quand même quelque chose qui est déterminant, puisque le taux d'imposition sur la succession peut être quand même assez élevé.
Bah, pour un enfant, ça peut aller jusqu'à 20%
ouais. d'imposition. Surtout si on n'a rien préparé, je dirais, et qu'en cas d'accident, malheureusement, ça peut arriver. Ça.
Alors, c'est pour ça que je te disais, encore une fois, on va revenir sur ce bilan, sur cette analyse initiale, parce que nous, cette analyse, justement, va nous permettre de visualiser la situation dans sa globalité de nos clients et de faire émerger parfois des besoins que eux-mêmes n'avaient pas vus.
Ouais.
En termes de protection, notamment, par exemple, de dire, ben voilà, aujourd'hui, moi je pense par exemple à des gérants de société ou des patentés qui demain, ben, s'ils se retrouvent en arrêt de travail ou voilà, et ben si la société fonctionne plus ou si le patenté peut plus travailler, et ben il y a plus de revenus, donc c'est des crédits immobiliers derrière. Alors oui, il y a des assurances de prêt, mais ça amène quand même une part de revenus dans le foyer, donc c'est compliqué. Donc voilà, notre action va se réaliser à plusieurs niveaux, c'est-à-dire que dans cette idée de d'optimisation patrimoniale, on va travailler tout un tas d'outils différents.
Ouais.
Pas que l'assurance vie. Alors, l'assurance vie, je serais tenté de dire que l'assurance vie, c'est un mot qui regroupe plusieurs outils différents.
C'est déjà un package qui est déjà, on va dire, calibré.
Alors,
où il y a des choses qui sont déjà un peu organisées.
Je ne vais pas utiliser le terme package, parce que le package, ça sous-entend que c'est un ensemble de produits qu'on a en même temps. Non, là, on va avoir plusieurs outils différents qu'on va utiliser en fonction des besoins.
Ouais.
Quelqu'un qui va vouloir protéger ses enfants, par exemple, ou sa famille, on va travailler les contrats d'épargne qui vont permettre de faire des capitalisations à long terme, mais on va également travailler des produits de prévoyance pour amener une protection immédiate. Parce que l'intérêt des produits de prévoyance, c'est que on provisionne un capital par rapport à une cotisation. Et là, cette provision, elle est là. Il arrive quelque chose 2 mois après, la personne, elle est protégée. Donc, ça amène tout de suite cette idée de protection.
La prévoyance, c'est un contrat à part ou ça rentre
C'est
dans
un contrat à part. Ça, c'est un contrat à part.
C'est pas l'assurance vie, là.
C'est toujours de l'assurance vie.
Ah, d'accord. T'es quand même.
Si tu veux, dans l'assurance vie, on a plusieurs outils différents. On va avoir des contrats de prévoyance individuels, qui sont des produits de protection en cas de décès, en cas d'arrêt de travail, pour garantir des salaires, ce genre de choses. On va avoir les contrats d'épargne. Donc là, les contrats d'épargne, ça va être ce dont on parlait tout à l'heure, donc les produits d'investissement.
D'accord.
Voilà, encore une fois, c'est quelque chose... C'est pour ça que je te disais en tout début d'entretien, c'est la...
Ouais, le champ des possibles.
Ce qui fait la richesse de notre métier, c'est cette,
important,
c'est cette marge de manœuvre. Quand on voit quelqu'un, en fait, on développe tellement de choses. Parce que à chaque fois qu'on a dès que le client nous fait savoir un besoin ou un intérêt particulier,
toi tout de suite tu peux déjà orienter,
on peut le développer. Mais dans le développement, en fait, on aborde tout un tas de sujets différents et on se rend compte au final que tous ces différents outils sont complémentaires.
Alors, est-ce que je pourrais revenir sur la succession? Alors effectivement, il y a des milliers de cas possibles. Si on est célibataire, si on est marié, si on n'est pas axé, si on a des enfants ou pas d'enfants, effectivement, il y a énormément de possibilités. Est-ce que tu peux nous dire, en grosso modo, ce qu'il faut quand même prévoir pour préparer sa succession de façon générale, dans le cadre d'un mariage, d'un pax, et le fameux testament?
La première chose, effectivement, qui va conditionner une succession, alors Succession, ça c'est en cas de décès, mais on va parler plus largement, même en cas de dissolution, par exemple.
Ouais.
Des gens mariés qui décident de divorcer, les dispositions vont s'appliquer de la même manière, puisqu'on est dans une dissolution.
D'accord.
Du mariage. Donc la première chose à faire, c'est de bien choisir son contrat, déjà, si tant est qu'on en souhaite un. puisque par défaut, lorsqu'on se marie, on est marié sous ce qu'on appelle le régime de la communauté. C'est la communauté réduite aux acquets. Donc en fait, c'est une communauté qui est constituée de tout ce que le couple acquiert pendant l'union, pendant le mariage.
Okay.
Voilà. Et ça n'empêche qu'en parallèle de ça, donc, ils ont toujours leur, ce qu'on appelle, généralement, c'est les masses de biens propres, hein, c'est leur bien propre, c'est-à-dire ce qu'ils possédaient avant le mariage. Imaginons quelqu'un qui possède un appartement, qui s'est acheté un appartement, il se marie, bon, cet appartement, il lui appartient à lui, même s'il est marié.
C'était avant le mariage.
Parce que c'était avant le mariage, voilà. Si maintenant ils achètent un bien pendant leur union, bah là, dans ce cas-là, le bien acheté pendant l'union rentre dans la communauté. Donc là, effectivement, c'est un partage.
Du coup, c'est un partage qui peut être, dans le cas du mariage en communauté de biens, c'est 50-50, c'est ça, en
généralement,
fait.
Généralement, c'est 50-50. Ouais. Après, il peut y avoir des dispositions particulières, mais ça, après, effectivement, elles sont prises par acte notarié, enfin, c'est fait avec des dispositions particulières.
D'accord.
Mais généralement, oui, c'est du 50-50.
D'accord.
Donc là, moi, déjà, je pense que la première chose à bien comprendre, c'est l'importance des contrats et la façon dont ça fonctionne. Après, dans le cadre d'une succession, ça va être l'orientation que l'on fait prendre au patrimoine. C'est comment on va structurer le développement du patrimoine. Donc, je le disais tout à l'heure, très généralement en Calédonie, comme ailleurs aussi, hein, c'est pas spécifique au territoire, généralement les gens travaillent sur l'immobilier parce que c'est ce qui est rentable, c'est ce qui ramène des revenus conséquents et en même temps ça permet de se constituer un patrimoine. Parce que parfois les gens n'ont pas de financier mais peuvent faire de l'immobilier par le crédit.
Bah oui, l'immobilier classique.
Exactement. Maintenant, moi ce que j'essaye de faire lorsque je rencontre cette typologie de patrimoine, c'est de dire, voilà, aujourd'hui vous avez travaillé sur de l'immobilier, c'est très bien puisque l'immobilier est un outil porteur. Maintenant, ce que je vais vous demander, c'est de voir plus loin. Mmh. Voilà, parce qu'aujourd'hui vous avez une vision arrêtée à maintenant, mais demain, si vous arrivez quelque chose, qu'est-ce qui se passe? Et là, on rentre justement dans cette idée de succession, puisque on va faire comprendre que tout ce qu'ils ont fait jusqu'à présent est imposable.
D'accord, ouais, c'est ça.
Et là, il y a une prise de conscience très souvent qui s'opère. C'est-à-dire que les gens réalisent que, oui, ils ont du patrimoine, ils ont pris des dispositions, mais au final, le jour où ils vont partir, ça va créer des problèmes, des problèmes financiers. Parce que la difficulté dans ce cas-là, c'est de se retrouver avec des enfants qui n'ont pas les moyens de payer les frais de succession. Et là, dans ce cas-là, eh ben, c'est vente de biens ou mise en enchère de la succession.
Ouais, c'est ce qu'on voit aussi parfois.
Et parfois, les gens qui constituent un patrimoine pendant des dizaines d'années, eh ben, se retrouvent, en tout cas, le patrimoine se retrouve en perdition parce que derrière, il n'y a pas ce qu'il faut pour payer les droits.
On est obligé de revendre une partie.
Exactement. Donc ça, c'est compliqué.
Ben, justement, est-ce que peut nous dire un peu comment optimiser cette transmission via déjà l'immobilier classique et via tes astuces toi.
Alors on va pas travailler sur le patrimoine existant parce que le patrimoine existant il est là, il travaille. Par contre on va s'attacher à développer des dispositions en assurance vie.
D'accord. Du coup ça on peut pas faire grand chose même à travers un dispositif de testament.
On peut faire des donations.
Ouais.
Déjà ça, je dirais que au niveau de l'immobilier, ce serait une des premières choses à faire.
Donation pendant du vivant, en fait, hein, c'est ça?
Exactement, faire des donations de son vivant, puisqu'on a cette chance en Nouvelle-Calédonie, encore une fois, en Calédonie, on est très chanceux, c'est que, contrairement à la métropole, où le principe de donation est assez rigide, en Calédonie, le régime des donations est très avantageux, encore une fois.
D'accord.
Il faut savoir qu'en métropole, les donations se font tous les 15 ans du vivant. Alors qu'en Nouvelle-Calédonie, on peut les faire tous les 6 ans.
D'accord.
Donc on peut optimiser un patrimoine en faisant des donations de son vivant tous les 6 ans à ses enfants.
D'accord. Et t'as une enveloppe?
Alors,
tous les
l'enveloppe, elle
six
est...
Ans,
tous les... ouais, ben, c'est ça. C'est, en fait, c'est qu'on va utiliser l'abattement des droits de succession qu'ont les enfants lors d'un décès, par exemple. Les enfants bénéficient d'un abattement de 18 millions sur les frais de succession.
C'est-à-dire
les 18 premiers millions de l'enveloppe.
Donc 18 millions, ouais, ça équivaut à quoi, à 140 000 euros, ouais,
voilà,
c'est ça.
Et ben ces 18 millions, dans le cadre d'une donation, les parents peuvent donner jusqu'à 18 millions à chacun de leurs enfants de leur vivant tous les 6 ans.
Tous les 6 ans. Okay.
Sans impôt à payer. Donc ça peut être des dons en financier. Donc là, on appelle ça un don manuel. Donc là, c'est donner de l'argent.
D'accord.
Ou on peut faire aussi des dons sur de l'immobilier. Et là, on va parler de donation-partage.
D'accord.
Là, c'est plus particulier en ce sens qu'on va travailler sur les principes de, démembrement de propriété, de démembrement de biens, avec des valeurs spécifiques. Mais encore une fois, l'idée, justement, c'est d'optimiser un patrimoine, mmh, pour que le jour venu,
on paye le moins de taxes possible, finalement, pour
exactement,
la personne,
c'est
ça.
Que les personnes payent, en tout cas, que les héritiers payent le moins d'impôts possible. Et très souvent, on retrouve ce principe de donation-partage pour l'immobilier sur la résidence principale. Par exemple, les parents qui ont plusieurs biens, ils font don de leur, de la nue propriété, puisque c'est la part de démembrement qu'on donne, qu'on peut donner aux enfants.
Ouais, ouais, ouais.
Ils la donnent via la donation-partage.
D'accord.
À l'avance.
Ok. Ben ça, c'est hyper important, je
voilà,
pense, d'y penser quand même.
C'est important de connaître le dispositif.
Ouais, et puis de, en temps voulu, bah, de le mettre en place, quoi.
Et de le mettre en application quand c'est nécessaire.
Ouais.
Alors ça, c'est, voilà, ça effectivement, donc on peut faire des donations sur de l'immobilier ou sur du financier. Et ensuite, donc au-delà de ces dispositions de donation, là, on va travailler donc des outils d'assurance vie, soit par rapport à de la constitution de capital. Donc sur des contrats d'épargne, mmh, avec des stratégies financières, CPI ou autres, mais aussi avec des contrats de prévoyance qui vont permettre de prévoir des enveloppes de capitaux, mmh, disponibles à tout moment, justement en cas de décès, de manière à garantir un versement d'argent à la famille pour que ben ils puissent faire face
d'accord,
à tout ce qui pourrait...
Et là, l'intérêt, ouais, c'est le cadre fiscal qui est avantageux, finalement. De.
Bah, l'avantage de l'assurance vie, c'est que tous les capitaux reversés sont exonérés de droits de succession. Mmh. Donc, que ce soit par un contrat de prévoyance, que ce soit par un contrat d'épargne ou des contrats spécifiques qu'on peut appeler des contrats viagers, des vies entières viagées, tous les capitaux reversés ont toutes la même vocation, c'est-à-dire de... Ça. Enfin, ces outils ont toutes la même vocation, c'est-à-dire de garantir le versement de capital au moment du décès de l'assuré.
Ah ouais, okay.
Et donc, à ce pas. Ensuite, on travaille avec les produits, justement, pour répondre aux besoins. Quelqu'un qui va vouloir protéger ses enfants, je ne sais pas, moi, il a 30 ans, il travaille, mais il n'a pas d'argent de côté, il veut en constituer. Bon, on va lui proposer un contrat d'assurance vie en épargne pour constituer une épargne à long terme. Mais on va également lui proposer un produit de prévoyance en parallèle, qui va venir compléter le contrat d'épargne, parce que sur ce contrat de prévoyance, je sais pas, moi, il va dire, bah voilà, moi, je veux que s'il m'arrive quelque chose demain, mes enfants ou ma femme touchent 10 millions, par exemple.
Mmh.
Donc, on va lui garantir le versement d'un capital de 10 millions, et ce contrat-là, on va le conserver le temps que sa capitalisation se mette en place.
Ouais, tout à fait. Ouais.
Imaginons qu'il lui arrive quelque chose un an après, ben, son contrat d'épargne, il aura rien fait dessus. Il aura pas eu le temps d'épargner dessus. Alors que du coup, s'il avait que le contrat d'épargne, bah, il n'y aurait rien. Alors que grâce à cette complémentarité dans les outils, et ben, s'il arrive quelque chose très tôt, dans tous les cas, même s'il n'a pas constitué le capital par l'épargne, il y aura un capital de versé,
ouais, c'est bien ça,
grâce,
ouais,
à la prévoyance. Donc on est vraiment dans une optique de protection à court terme et à long terme.
Ouais,
et on
fait.
Va utiliser les différents outils justement pour organiser une protection qui soit valable à tout moment.
D'accord. Et effectivement, effectivement, ça, c'est en fonction des besoins des personnes, hein, qui viennent te voir. Et tu peux dimensionner le contrat en fonction de ses besoins.
Bien sûr.
Comme tu l'avais bien mentionné.
C'est la base. Encore une fois, on revient à l'analyse et aux,
ouais,
moyens.
C'est ça. Mais aujourd'hui, en fait, l'intérêt de ces contrats d'assurance vie, c'est qu'on peut, en fonction du profil de la durée de risque, se porter sur des on va dire des produits qui sont dynamiques avec des rendements qui sont attendus qui peuvent aller jusqu'à 10% voire plus, 10% par an. Et je voulais en fait qu'on parle un peu des fameux intérêts composés qui fait que quand tu commences assez tôt et que ces intérêts travaillent pour toi sur plusieurs années, plusieurs dizaines d'années parfois, bah, le résultat peut être vraiment très très intéressant c'est, pour la personne.
La difficulté qu'on a, alors je peux pas parler de difficulté.
Je m'exprime pas forcément très bien, mais c'est aussi les langages simples que les gens comprennent.
Ce qu'il faut comprendre aujourd'hui, ce qu'il faut visualiser, c'est que, en tout cas, c'est mon sentiment, c'est qu'aujourd'hui, on peut pas gagner d'argent si on prend pas un minimum de risque, malheureusement. Et ça, c'est pas moi qui veux le voir comme ça, c'est la conjoncture globale.
Et c'est ça.
Aujourd'hui, tu fais un investissement sur un fonds en euros, par exemple, effectivement, le fonds en euros que tu peux trouver sur les produits bancaires ou sur les produits d'assurance vie classiques ou autres, enfin, tout produit d'assurance vie, aujourd'hui, un fonds en euros va te rapporter entre 1 et 2%, alors que tu vas avoir des frais de 2, 3, 4, voire 5% parfois.
Ouais,
du coup, bah, ce type d'investissement, il n'est pas rentable.
Sécurisé, mais pas rentable,
exactement. Mais dans ce cas-là, aujourd'hui, bah, si c'est pour gagner du 1%, autant rester sur un livret A,
un livret A, ou bancaire qui va te rapporter
0,6, 0,7. Mais voilà, moi, je vois pas l'intérêt aujourd'hui, parce que ces produits bancaires vont pas t'apporter de sécurité en termes de capital. Donc aujourd'hui, l'idée, c'est, je dirais, c'est de changer la façon dont les gens voient les choses, parce que voilà, on est conditionné par ce qu'on voit à la télé, par ce qu'on voit sur internet. Là, je reviens sur ce que je disais au début, t'as de l'information mais tu sais pas forcément comment l'interpréter.
Ouais, tout à fait, ouais.
Donc l'objectif, ça va être là d'être dans une pédagogie, c'est-à-dire d'expliquer les choses, de présenter les différents profils d'investissement, d'expliquer à quoi ils correspondent en termes d'opérations, d'expliquer aux gens comment fonctionnent les produits boursiers, parce que les produits boursiers, voilà, quand on voit les choses à la télé, ça paraît un peu compliqué, mais en fait les produits boursiers c'est relativement simple. Voilà, on va avoir des produits prudents, des produits équilibrés, des produits offensifs. Chaque type de produit répond à une typologie d'investissement ou à un profil d'investissement, et en fonction on va travailler des stratégies particulières. Alors, je sais pas si je le dis correctement, mais si tu veux, c'est pas le type de produit boursier qu'on va choisir qui va faire qu'on va être sécurisé ou non. C'est encore une fois un cumul de plusieurs facteurs. C'est-à-dire qu'il va y avoir le type de produit boursier qu'on va choisir, mais il va également y avoir la manière dont on va investir le capital. Ouais. Parce qu'en fond, ça aussi, ça a une incidence sur l'exposition.
Donc les deux grandes différences, c'est quoi ? Je mets un capital existant dans un produit, ou alors je fais des versements réguliers.
Je dirais que
ça les deux grandes stratégies.
L'idée maîtresse.
Coupler les deux peut-être.
Bah, on peut tout faire. On peut tout faire. Maintenant, tout va dépendre de la volonté de s'exposer ou non sur les marchés.
Ouais, c'est ça.
De prendre des risques.
C'est l'appétence au risque,
exactement. Mais très généralement, aujourd'hui, on part sur des stratégies prudentes pour du capital, pour du cash. Quelqu'un qu'on 10... Enfin, quel que soit le montant, au demeurant, ça peut être 1 million, 10 millions, 20 millions, je veux dire, nous, aujourd'hui, enfin, en tout cas, pour ma part, les stratégies que j'applique, elles sont valables pour toutes les valeurs d'épargne. Quelqu'un qui vient avec 100 millions comme quelqu'un qui vient avec 1 million, j'aurai le même discours. Je ne fais pas un discours adapté à la personne. Okay. C'est un discours général. Et ensuite, on l'adapte en fonction de ce qu'on souhaite, tout simplement. Quelqu'un qui me dit, moi, ce capital-là, j'en ai pas besoin pour vivre. Si je le perds, c'est pas important. Je veux le faire travailler au maximum. On va travailler des stratégies offensives, même sur du capital. Mais quelqu'un qui vient me voir en me disant, bah écoute, Guillaume, ça, c'est c'est une épargne de 20 ans. J'ai commencé ça quand j'ai commencé à travailler. Puis aujourd'hui, j'ai un peu d'argent de côté, donc je voudrais le valoriser d'une façon plus intéressante. Bon, on va pas faire n'importe quoi.
Ouais, c'est ça.
Donc là, on va se voir avec lui ce qu'il veut faire, parce qu'encore une fois, hein, on est toujours dans l'échange. Donc on va d'abord s'attacher à savoir ce qu'il veut faire, qu'est-ce qu'il veut avoir comme rendement, parce que très souvent, les gens disent « je veux gagner de l'argent », mais on pense jamais à leur demander combien ils veulent gagner.
Ouais.
Moi, je demande toujours à mes clients « mais alors pour toi, c'est quoi un bon rendement ? C'est quoi ? C'est 2% ? C'est 5% ?
C'est quoi pour toi
un bon rendement ? » Et effectivement, on a des gens qui vont nous dire « bah moi, pour moi, un bon rendement, c'est 3%. » Et puis on en a d'autres qui vont nous dire « bah pour moi, un bon rendement, c'est 10. »
Ouais, c'est ça.
Mais
tout
de suite, ça permet d'identifier plus ou moins le produit qu'on va utiliser.
Ouais.
Mais c'est pareil, là, on va pas rentrer, on va pas se dire « ok, bah tu veux du 10, je vais te faire ça. » Non, on va isoler un type de produit. Et après, on va travailler dans le détail pour savoir si effectivement ça répond vraiment à son attente. Et donc voilà. Mais très généralement, pour revenir à ce que je disais, aujourd'hui, quand on fait un investissement en cash, très généralement, on fait de l'investissement prudent parce que le but est de sécuriser et d'équilibrer le placement. Maintenant, une stratégie offensive sur des produits plus volatiles, mais où on aura des projections de gains plus importantes, bien sûr. Là, on va travailler ça sur de l'épargne mensuelle, par exemple.
C'est ça.
Et là, on va travailler sur ce qu'on appelle un principe d'investissement progressif qui va permettre de sécuriser le placement par la technique d'investissement.
C'est ça. Donc concrètement, c'est chaque mois, tu vires une somme sur ton fonds d'assurance vie qui peut travailler peut-être de manière un peu plus dynamique.
C'est ça.
Du coup, le capital engagé est quand même moins important que ce que tu avais mis toutes tes économies dedans, puisque tu commences avec un petit capital.
Ça peut dépendre des cas, parce que parfois, il y a des gens qui versent des gros montants en mensuel.
Ouais, effectivement, ça peut dépendre
des
personnes.
C'est une stratégie d'investissement
sur le long terme
qui permet de gagner de l'argent sur le long terme, même sur des marchés financiers extrêmement volatiles. Je serais même tenté de dire que on recherche cette volatilité parce que c'est grâce à cette volatilité qu'il y a un gain important.
C'est ça.
Donc là, c'est un mécanisme à bien comprendre parce que c'est quelque chose qui peut être difficile à appréhender. Aujourd'hui, quand on dit aux gens, vous allez investir, les marchés vont baisser, mais vous allez gagner de l'argent, ils disent, mais attendez, comment est-ce qu'on peut gagner de l'argent si les marchés baissent? C'est le principe, c'est la technique d'investissement qui permet cet effet-là. Et là, on la développe en entretien, puisque du coup, il y a des explications avec des graphiques.
Et ouais. Les fameux cycles du marché, finalement, qui sont soit baissiers, soit haussiers. Et on observe finalement avec le temps et l'expérience que ça fluctue, en fait.
C'est cyclique, voilà. Ça monte, ça descend, plus ou moins rapidement en fonction des supports. Mais aujourd'hui, pourquoi est-ce qu'on appelle ça des fonds prudents ou des fonds dynamiques? Parce que les fonds dynamiques, eux, vont pas arrêter de bouger. Ça va monter, ça va descendre. Alors que les fonds prudents, eux, seront beaucoup moins volatiles, donc ils vont beaucoup moins bouger.
Moins fluctuer.
Mais par contre, ils donneront moins. Mais ils donneront sur la durée.
Sur la durée, ouais.
Contrairement à un fonds offensif qui, lui, va peut-être donner peut-être beaucoup sur une très courte durée. Tout va dépendre des besoins, des objectifs, encore une fois. On en revient toujours à ce principe d'étude au cas par cas, parce qu'aujourd'hui, c'est tout ce dont on parle depuis le début de l'entretien. Il n'y a pas de règle écrite. C'est toujours du cas par cas, c'est toujours de l'étude personnalisée, et on définit des stratégies sur mesure pour nos clients. En fonction de combien ils ont, de ce qu'ils veulent faire, de pendant combien de temps ils veulent investir, quels sont les objectifs, est-ce qu'ils veulent récupérer du capital rapidement, est-ce qu'ils veulent... Il y a tellement de questions qui viennent dans un entretien, généralement. Quand on lance un entretien, on ne sait jamais pendant combien de temps ça va durer.
En tout cas, moi je dirais que, moi en venant de voir la première fois qu'on s'est rencontrés, à quelques semaines maintenant, quelques mois, moi qui ai déjà investi dans l'immobilier classique, j'ai personnellement une assurance vie en fonds euros depuis maintenant, ça va faire 8 ans, tu vois, cette année-là, ça va faire 8 ans.
Quoi ?
Où j'ai presque rien, où j'ai presque rien dessus, en fait. Quelque chose, tu veux, que mes parents m'avaient ouvert quand j'étais jeune, quoi. J'avais à la limite, j'avais oublié que j'avais ce contrat d'ouvert.
Bien sûr.
Et pour moi, ça, c'est une super opportunité de diversifier aujourd'hui mon patrimoine et mon épargne.
Tu vois, je vais me permettre de rebondir.
Et d'aller dans ces produits financiers
Là, tu viens de dire un mot qui est très important. C'est-à-dire que quel que soit le type d'investissement qu'on envisage de faire, que ce soit de l'immobilier, du financier, il faut retenir le mot que tu viens de dire, c'est-à-dire le mot diversifié. Il faut toujours rester dans un principe de diversification. Là, je vais revenir à mon cas. Quand on monte un investissement avec un client, on est toujours justement dans cette idée de diversification. On va jamais, on connaît tous la formule, on met jamais tous ses œufs dans le même panier.
C'est ça.
Voilà. Donc, même si on n'a qu'un contrat, on va s'attacher à travailler plusieurs outils différents dans un même contrat, de manière à diversifier. Et là, on fait ce qu'on appelle, c'est qu'on dilue le risque, on mutualise
le
risque. C'est comme tout, on a des choses qui vont fonctionner mieux que d'autres, mais le principe, c'est que sur la moyenne, on ait un rapport positif, même si on a quelque chose qui travaille moins. Je vais prendre mon exemple. Moi, tu parles d'expérience personnelle, moi, je vais prendre la mienne. C'est ce qu'on dit très souvent, quel que soit le ministre, c'est que c'est toujours les cordonniers les plus mal chaussés.
Ouais.
Et c'était mon cas, puisque j'ai ouvert des contrats d'assurance vie quand j'ai démarré dans le métier, que j'ai laissé sur des fonds en euros pendant des années.
D'accord.
Et l'année dernière, ça m'a marqué. Je sais pas, un jour, j'ai eu un déclic, je me suis dit, mais Guillaume, putain, mais tu fais ça pour tes clients, mais tu ne l'as même pas fait pour toi.
Ah, carrément,
ouais. Je me suis empressé de modifier mes répartitions d'investissement parce que j'étais sur du fonds en euros qui me rapportait quasiment rien.
Parce que tu as dû voir les scores, en fait.
Mais c'est juste que je m'étais jamais posé la question. J'avais jamais réalisé.
Parce que t'as peut-être pas pris l'habitude de le faire.
Voilà, et je me suis dit, mais putain, je le fais pour les autres, je le fais pas pour moi. Et du coup, j'ai changé toutes mes répartitions. Et aujourd'hui, en fait, j'ai appliqué ce que je faisais faire à mes clients, je l'ai appliqué à moi-même.
Okay.
Voilà, donc aujourd'hui, je peux dire, ce que je vous propose, bah, je me le fais pour moi, et j'utilise souvent mes propres contrats exemple.
Du coup, c'est beaucoup plus parlant aussi pour les gens, quoi.
Bah écoute, moi aujourd'hui, tu vois, par exemple, sur des contrats d'épargne où, j'ai pas une somme extravagante, mais aujourd'hui, en un an, j'ai quasiment fait 3 à 4 fois plus que ce que j'aurais fait sur fonds en euros si j'étais resté dessus. Voilà. Mais voilà, il faut développer cet aspect humain. Je pense que la plus grosse problématique qu'on peut rencontrer, et ça je le disais en début d'entretien, souvent les gens quand ils se disent je vais aller voir un assureur, c'est la casquette, c'est l'image de l'assureur tiré à 4 épingles un peu.
L'image qui peut ressortir.
Je dirais pas hautain, mais voilà, avec un décalage. C'est vrai que moi personnellement j'essaye toujours de casser ce décalage parce que, et on se rend compte, encore une fois on a de la chance d'être en Calédonie pour ça, parce que très facilement les gens s'ouvrent, ils parlent, ils se confient, et on se rend compte que c'est avec ces gens-là qu'on noue les meilleures relations. Parce que justement on travaille dans l'ouverture, dans l'échange, on parle, on se voit souvent, on discute. Moi, très souvent, je dis à mes clients, j'ai dit, mais c'est pas quelque chose qui marche à sens unique. Je veux dire, là, on met en place une opération, ben, je vais vous demander aussi de faire quelque chose derrière. C'est-à-dire que je vais vous demander de vous investir dans l'opération et de surveiller de temps en temps, parce que votre vision des choses n'est pas forcément celle que j'ai moi.
Et à un moment
où vous serez en attente de quelque chose, moi, je le percevrai peut-être pas de la même manière. Donc, c'est important, encore une fois, qu'il y ait cet échange, cette communication, parce que alors, des fois, on a des gens qui me disent non, ça, c'est, j'y connais rien, je te fais confiance.
Je t'occupe de tout.
Comme on dit, vous savez, moi, j'avais une phrase qui m'était restée, que mon père m'avait dit, c'était la confiance n'exclut pas le contrôle.
Effectivement.
Donc, il faut toujours s'investir dans la chose. Même si on fait confiance aux gens, même si on. Voilà, je pense qu'à un moment donné, si les gens viennent voir des conseillers en assurance, c'est parce qu'ils veulent justement être pris en main, d'avoir quelqu'un qui va faire le travail pour eux, c'est évident. Mais en même temps, ça n'empêche pas qu'ils peuvent s'y intéresser.
Tout à fait, oui.
Et à leur degré ou à leur envie, mais voilà, d'avoir un minimum d'implication dans l'opération, parce qu'à un moment donné, ils verront peut-être une chose que moi, je ne verrai pas, et vice-versa. C'est-à-dire que moi, à un moment donné, je vais voir quelque chose qu'eux n'auront pas vu. Et l'idée, voilà, dans tout ça, c'est qu'il y ait cette communication permanente, et qu'à tout moment, d'un côté comme de l'autre, il puisse y avoir cette « Ah tiens, je vais appeler Guillaume parce que tiens, ça me paraît bizarre, ça je comprends pas. » Ou moi de mon côté, « Ah bah tiens, j'ai un bon truc, là j'ai une belle opération, hop tiens, je vais l'appeler parce que du coup ça me plaît. »
Du coup, voilà. ça devient comme une synergie finalement gestion du patrimoine,
encore
du portefeuille.
Encore une fois, tout ce qu'on parle depuis le début là, ça peut pas fonctionner sur du long terme s'il n'y a pas cette synergie,
cet engagement en fait et cette volonté.
C'est une relation, on noue une réelle relation. Moi j'ai beaucoup de clients qui avec le temps sont devenus pour certains des amis, pour d'autres des gens que je côtoie au quotidien et avec qui je m'entends extrêmement bien. Mais parce que voilà, on rentre dans la vie des gens, on devient partie prenante de leur vie, on les accompagne.
Ça c'est un côté, tu vois, que nous en tant que client entre guillemets, on n'a pas forcément conscience, et c'est vraiment bien la façon dont tu le décris, et je pense l'importance aussi que ça a sur le long terme dans la gestion.
Moi, je aussi bien aussi à long terme comme ça, et aussi autrement que comme ça,
bien préciser, tu vois, des auditeurs, certains peut-être n'ont pas d'assurance vie, n'ont jamais investi dans l'immobilier, mais il y a des professionnels, ce podcast va à la rencontre des professionnels qui touchent au monde de l'immobilier. Et bon, on dépasse un peu, on déborde un peu parce que c'est intéressant, tout ce qui est placement, patrimoine.
On peut pas faire autrement que déborder si on déborde ces sujets-là.
C'est ça qui est intéressant, comme tu dis, la diversification, c'est C'est vraiment important. Enfin, moi aussi, ça m'intéresse parce que il y a plein d'opportunités.
Quand je t'ai vu la première fois, je t'ai dit, oh, t'as fait que de l'immobilier, attention.
Ouais, voilà.
J'ai voulu te sensibiliser à ça quand je t'ai vu.
Ouais, mais j'étais en phase de, bah, tu vois, je m'intéresse un peu à tout, quoi. Comme je commence à tout azimut. Bien sûr, m'informant, et ben, effectivement, c'est vraiment ça qui est intéressant. Tu donnes l'information, et finalement, tu participes à former les gens, à être maître un peu de, mieux comprendre tous ces mécanismes.
C'est ça.
La gestion de patrimoine, de la fiscalité, de la transmission.
C'est, si je devais donner un conseil, à toute personne, hein, que ce soit, c'est, faut pas hésiter à se renseigner. Très souvent, les gens ont peur de passer cette étape-là, de faire le premier pas, d'aller vers... Et l'une des questions que tu m'avais posées en préparation de cet entretien, c'était qu'est-ce qu'on pourrait dire aux gens, qu'est-ce qu'ils pourraient faire, quels conseils on pourrait leur donner.
Ouais, c'était l'une des questions.
C'est simple, c'est déjà renseignez-vous. N'ayez pas peur de vous renseigner, d'aller voir des professionnels. Parce que ce sont ces gens-là qui vont vous permettre de voir les choses d'une manière beaucoup plus simple. Parce que souvent on a peur des choses qu'on connaît pas, hein, comme tout, hein, on a peur d'aller vers des choses qu'on maîtrise pas. Et du coup, en tout cas pour moi, j'essaye toujours de mettre à niveau les choses. C'est-à-dire que je reviens sur l'idée de l'assureur. L'assureur, il a une mauvaise image. Moi, je me considère pas comme un assureur. Moi, je suis un courtier déjà, je suis pas un assureur, donc je suis là pour mes clients, je suis pas là pour travailler pour une compagnie, je suis là pour mes clients.
Mon objectif,
c'est d'aider mes clients. Et au-delà de ça, je pars du principe que la base de mon métier, c'est pas de vendre des produits, même si ça reste une finalité. C'est comme ça que je gagne ma vie, il faut
bien
le faire.
Sûr.
Mais la base de mon métier, c'est d'aider les gens, c'est de leur amener du conseil, c'est de les aider à monter des projets, c'est de les orienter vers des professionnels si on... Demain, moi, quelqu'un qui vient me dire comment est-ce que je dois monter une SCI, j'ai certaines compétences, mais je ne suis pas spécialiste. Donc, je vais l'orienter vers un spécialiste qui va être en mesure de l'aider dans sa démarche. Et tout ça, c'est complémentaire. Moi, aujourd'hui, je travaille avec des professionnels et on se complète. Voilà, j'ai des professionnels bancaires qui ont besoin d'un intervenant pour une délégation d'assurance pour un prêt immobilier, par exemple.
Ouais.
Ben, ils font appel à moi pour aider leurs clients. Et encore une fois, même dans cette disposition-là, je ne vais pas être là à dire, voilà, c'est parce que la banque vous a amené, c'est mon produit le mieux. Non, je vais dire, écoutez, vous faites des demandes à la banque, on confronte, on compare, on regarde ce qui est bien, on rentre dans le détail des garanties, et on va s'attacher à trouver la meilleure solution. Si c'est avec moi, tant mieux. Si c'est avec un autre partenaire, au moins, vous aurez la certitude que ce que vous faites, c'est ce qu'il y a de mieux pour vous. Il n'y a rien de pire, je pense, et là, je ne pense pas que tu vas me contredire, ni nos auditeurs, mais... C'est quand on nous dit fais ça, on a toujours cette petite voix qui nous dit mais est-ce que j'aurais pas pu trouver mieux ailleurs ou pas mieux ailleurs. Et parfois on le fait pas parce qu'on n'a pas le temps, parce qu'on est pris par les choses, compliqué.
Ouais.
Alors que je presse pour ma paroisse bien évidemment, mais quand tu viens voir un courtier, je te dis le but du courtier, en tout cas moi mon but quand je vois mes clients, c'est vraiment de leur apporter de faire un état des lieux le plus précis possible.
Ouais. Tu l'as très très bien expliqué. Je pense qu'on comprend mieux aussi maintenant tout ton métier que tu peux réaliser quoi au quotidien, aider les gens. Donc c'est vraiment merci pour tous ces explications, ces conseils.
Ça, c'est super.
Je te propose juste de poser les petites questions que je pose à tous les invités du podcast.
Ouais.
Je sais pas si tu as le temps d'y réfléchir, mais je voulais te demander si tu avais une référence à nous partager. Ça peut être un livre, un site internet, un auteur qui t'a inspiré. Alors toi,
t'es
arrivé un peu par hasard dans ce domaine.
Par ma façon, moi, je suis arrivé au métier. En fait, j'ai appris trop tard et j'ai appris aux côtés. De mon directeur commercial qui m'apporte au quotidien.
Ouais, qui t'a formé un peu.
Voilà. En fait, si tu veux, on est dans un métier.
Comme un mentor, comme un coach.
Jour. On en apprend tous les jours.
Ouais, effectivement.
On est dans un domaine où on apprend tous les jours. Parce qu'encore une fois, chaque demande est spécifique et moi, pas plus tard qu'il y a quelques semaines, on m'a posé une question d'ordre fiscal et sur des donations, j'ai pas été capable de répondre parce que je n'avais jamais été confronté à la demande.
À la situation,
et c'est grâce à cette question, eh ben, j'ai dit, bah, écoutez, ok, bah, je vais me renseigner, je vais voir comment on peut faire. J'avais déjà certaines idées parce que, mais je n'étais pas capable de répondre en précision. Donc, je me suis renseigné, on a interrogé les services fiscaux, on est allé à la pêche aux informations, et puis au final, bah, aujourd'hui, je suis encore plus compétent parce que j'ai appris quelque chose.
Ouais, ouais.
Et dans notre domaine, on est dans un domaine qui bouge parce qu'on est lié à des réglementations, on est lié à des lois.
Ça change souvent.
Les lois changent tout le temps, les réglementations évoluent. Et c'est ce qui fait la richesse de notre métier, c'est-à-dire qu'on est en constante évolution. Mmh. Et donc, c'est très enrichissant pour nous et c'est nécessaire pour nos clients.
Ouais,
parce que nos clients attendent de nous que l'on soit capable de les aider, de leur amener de nouvelles idées. Quand on fait de l'optimisation fiscale, on travaille avec les comptables, on travaille avec les chefs d'entreprise, on travaille avec... Et on est là justement pour amener des solutions, pour être créatif.
Et d'ailleurs, bah, cette créativité, c'est un mot que j'aime beaucoup. La créativité, finalement, c'est une capacité d'adaptation... trouver des solutions, des nouvelles solutions, créer en fait, hein, pour,
c'est trouver, je te dis encore une fois, c'est pour ça que cette analyse de départ est très importante, parce que c'est ce qui va nous permettre d'être créatif, justement, c'est-à-dire qu'en fonction de ce qu'on va avoir sur le papier, une fois qu'on va avoir le schéma, eh ben, c'est ce schéma-là qui va nous permettre de dire, bon voilà, comment je vais faire, qu'est-ce que je vais pouvoir trouver.
Et on dit souvent que la créativité, c'est l'un des critères qui est commun aux gens qui réussissent dans leur vie, et des études comme ça qui ont été faites où c'est pas forcément l'intelligence comme on peut le croire au niveau d'études, c'est la capacité à être créatif, quoi, à s'organiser, à s'adapter pour détecter les opportunités.
De manière générale,
tu vois, je pense que pour un investisseur ou un entrepreneur qui peut venir te voir.
C'est une analyse personnelle, plus personnelle, mais je pense que ce qui définit une personne qui réussit, ou en tout cas qui se donne les moyens de réussir, parce que parfois ça prend du temps, ça se fait pas du jour au lendemain, malheureusement. Je pense que c'est surtout la capacité, enfin, c'est d'être capable de se remettre en question régulièrement. C'est-à-dire d'avoir cette capacité de s'auto-analyser et de dire, alors, qu'est-ce que j'ai bien fait, qu'est-ce que j'ai mal fait, qu'est-ce que je peux faire pour m'améliorer, qu'est-ce que j'aurais pu faire pour que ça se passe mieux.
Et ouais.
Moi, je le vois au quotidien dans mon métier, parce que quand on voit les gens, bah, des fois, il y a des gens avec qui ça matche bien et des fois, il y a des gens avec qui ça matche moins bien, et automatiquement, on se pose des questions. On se dit, mais tiens, pourquoi là, ça n'a pas bien fonctionné? Qu'est-ce qui a fait que la personne était moins réceptive? Est-ce que c'était dans mon comportement? Est-ce que c'était dans ma façon de parler? Est-ce que j'ai été trop technique, ou est-ce que j'ai pas été capable de me mettre à son niveau pour qu'il puisse prendre l'information? Donc en fait, on est en perpétuelle remise en question, et je pense que c'est ce qui fait que on est capable justement de s'adapter à chacun, parce que chacun est différent, on a tous une façon de voir les choses, d'entendre les choses. Ça, c'est un grand principe dans la communication, c'est que on dit des mots, mais les mots sont pas forcément compris de la même manière.
Perçus de la même manière.
Donc, il faut être capable, de dire les choses différemment. Et moi, je pense que la chose qui fait que les gens réussissent, c'est cette capacité à se remettre en question et à chercher à s'améliorer perpétuellement.
Excellent.
Aller de l'avant.
Ouais, moi ça me parle beaucoup ce que tu dis, et aussi ce que tu disais dans ton métier, toi, à ton niveau, de te former continuellement, te mettre à jour. Je pense que c'est ça aussi qui fait que tu finis tes études, tu dis ça y est, les études sont terminées, et on arrête de se former entre guillemets, ou une fois qu'on est compétent, on est un peu dans notre fameuse zone de confort. Rester dans son métier.
Je pense que dans tous les domaines, on doit se remettre en question pour s'améliorer.
Je vois peu de métiers
où on n'a pas cette obligation de mise à jour des connaissances.
Ouais, complètement.
Parce que
ça se fait d'une manière ou d'une autre.
Tout évolue.
Mais ce que je voulais dire, c'est qu'on peut, tu vois, à titre personnel, avoir cette démarche.
Oui.
Par exemple, moi, qui suis pas issu d'une famille d'investisseurs, d'entrepreneurs, j'essaie de, je m'intéresse à ça, je m'intéresse à ce que, tout ce que je peux faire en termes de placement, donc j'apprends, finalement je me forme, bien je sûr. Fais des formations à côté.
Bah, tu sais, ce qu'on, enfin, moi, ce que je vois souvent, c'est
finalement,
que,
voilà, c'est mon process qui...
C'est très souvent, c'est le pour toute personne, hein, quelle qu'elle soit, pour les enfants, pour les adultes, mais, c'est ce qu'on nous, c'est ce qu'on a comme, comme environnement qui conditionne aussi la façon dont on évolue. Mm-hmm. Là, je reviens sur le principe de l'investissement immobilier. Moi, j'ai acheté très tard. Mmh. Pourquoi ? Parce que on m'a jamais conseillé jeune d'envisager cette solution. Moi, j'ai acheté ma maison. J'avais quel âge ? J'avais 32 ans, 33 ans. Je me souviens plus. Ouais, peut-être même un peu plus. Mais et je me dis avec le recul, mais quel gâchis !
Et ouais.
J'ai perdu du temps. Et aujourd'hui, la chose que je dis. Aux jeunes que je peux rencontrer.
Voilà, c'est une des questions qu'on peut dire à un jeune.
Je fais la transition, mais.
Un jeune qui.
Je leur dis aujourd'hui, souhaite... ne perdez pas de temps. Même si c'est un petit studio qui va vous coûter 30 000 balles par mois, que vous n'allez pas habiter, même si vous restez chez. Mais dès que vous pouvez, investissez. Investissez parce que plus tôt c'est fait, plus vous aurez d'avantages plus tard. C'est-à-dire que ça va permettre de constituer un apport pour un appartement quand vous voudrez acheter votre maison, par exemple. Ça va vous permettre d'avoir des revenus locatifs alors que vous êtes chez vos parents et que vous n'avez pas de loyer, donc ça va vous permettre de capitaliser. Il faut y penser. Moi, je pars du principe que l'accession à la propriété, c'est le premier acte fondateur de la retraite. Aujourd'hui, j'en suis convaincu, j'en suis intimement convaincu. Parce que, et là, je le vis, enfin, j'en suis convaincu parce que je l'ai vu en métropole. Moi, j'habitais en HLM quand j'étais en région parisienne. Mmh. Quand je voyais des retraités qui étaient dans des HLM en location, c'est-à-dire qu'ils avaient leur retraite, mais ils devaient payer des loyers. On se dit, waouh!
Ouais, ouais,
60, 70 ans, t'es pas propriétaire, t'as des charges, t'as pas forcément une grosse retraite.
C'est une situation qui donne pas envie, clairement.
Voilà. Et là, j'ai réalisé que, ben, acheter sa maison, enfin, être propriétaire de sa maison, c'est finalement la première action pour préparer sa retraite. Parce que quand tu arrives à 60 ans, moi, c'est aussi ce qui m'a amené à le faire. Quand j'ai réalisé ça, je me suis dit, il faut vraiment que je me bouge les fesses. Parce que... Et moi, je sais que ma maison, elle sera payée quand j'aurai 60 ans.
Mmh. Et ouais.
Je l'ai fait tard. En même temps, je me dis, au moins à 60 ans, j'aurai pas de loyer à payer.
C'est ça, ouais.
Donc même si j'ai pas une grosse retraite, au moins, j'aurai pas de traite à payer, j'aurai pas de loyer à payer.
Ouais, excellent.
C'est déjà ça de moi.
Ouais.
Parce que on voit pas les choses souvent comme ça, mais moi aujourd'hui je dis aux jeunes, je dis aux gens, ou même aux parents avec qui j'en parle, je dis mais vos enfants, dites-leur, dès qu'ils peuvent acheter, ils achètent. Aujourd'hui en Calédonie, on peut acheter des petits studios pour 10, 11 millions.
Ouais, voilà, c'est ça.
Qui ont des bons rapports locatifs, qui s'amortissent. Alors on dégage pas de plus-value, mais en tout cas ça permet d'amortir les emprunts qui sont faits.
Au final,
au bout de 5-6 ans, on a déjà une petite enveloppe de 3, 4, 5 millions de constitués parce qu'on a fait un investissement immobilier. Si on le revend, on a une petite enveloppe et ça permet de payer des frais de notaire, ça permet de faire un apport sur un bien.
Tout à fait, ouais. Donc ce fameux premier pas, finalement.
C'est le premier pas.
Pas te permettre, comme tu dis, t'as tout dit, de toute façon, j'ai pas... c'est même très, très bien dit, du coup. Je finirais, t'as dit déjà, je crois, au moins deux proverbes inspirants dans l'entretien. Est-ce que tu t'en avais préparé un par rapport à cette question de fin d'épisode, une phrase inspirante qui te plaît, que tu voudrais nous partager?
Il y en a plusieurs, hein, ouais. C'est pas mettre tous ses œufs dans le même panier, la diversification, et puis après, peut-être plus, je te l'ai dit la dernière fois qu'on s'est vu, propre à l'investissement, c'est que il faut acheter au son du canon et revendre au son du clairon. Voilà. C'est un principe, c'est acheter à la baisse et revendre à la hausse. Parce que très souvent, les gens se disent, les marchés montent, donc c'est le moment d'investir. Non. Malheureusement.
C'est déjà trop tard.
Il faut investir quand ça baisse. Et c'est difficile de visualiser cette notion. Mais de dire, les marchés baissent. C'est le moment d'investir parce que c'est là où vous allez gagner de l'argent.
Et ouais.
C'est pas quand les marchés sont déjà remontés. Comme tu disais, à ce moment-là, c'est déjà trop tard. Là, on est plus dans la spéculation. C'est-à-dire qu'on va, la spéculation, c'est de se dire que quelque chose de très haut va encore monter. Et là, on spécule. Et c'est là où c'est dangereux parce que là, on prend des risques. Alors qu'à l'inverse, quand on a des valeurs qui baissent, tu vois, très clairement, on en a parlé quand on a déjeuné ensemble récemment. Là, aujourd'hui, on est dans des phases baissières au niveau de la bourse. On le voit. Et c'est le moment d'investir. C'est maintenant qu'il faut investir. Parce que les marchés ont baissé. Aujourd'hui, on achète au même prix qu'au 1er janvier.
Ouais, c'est vrai.
Donc, c'est maintenant qu'il faut acheter. Parce que quand ça va remonter, eh ben, on aura fait une plus-value plus importante. Mais c'est, voilà, c'est ce que je te disais tout à l'heure. C'est la pédagogie qu'on doit avoir dans les entretiens parce que c'est d'expliquer aux gens comment ça fonctionne, c'est de leur permettre de comprendre les choses. Moi, aujourd'hui, je conçois pas de faire, enfin, de mettre en place une opération financière avec un de mes clients sans qu'il ne comprenne ce que je lui propose. Je passe beaucoup de temps à expliquer les choses pour être sûr que ce qu'on va mettre en place, il sache comment ça va fonctionner, comment ça va évoluer, et lui, ce qu'il peut faire aussi au travers de ça. Parce que lui aussi, il a son implication dans le truc, et il faut que, encore une fois, voilà, il y a de l'échange, et moi, je veux que les gens, ils me donnent des conseils aussi, parce que je suis peut-être un professionnel, mais en même temps, je suis une personne lambda, et j'ai pas la science infuse. Parfois les gens ont des idées que moi je n'aurais pas et inversement, et donc il faut être capable d'en discuter et de s'ouvrir et de parler, et je pense que dans notre métier, voilà, il faut parler, il faut discuter, il faut prendre le temps, voilà, comme on a fait ce matin autour d'un café, on parle.
Excellent, ouais. On a bien vu ce côté pédagogique dont tu nous as parlé, cet échange aussi. Écoute, merci beaucoup pour ton partage d'expérience, tes conseils.
Bah, écoute, merci à toi de m'avoir donné la possibilité de le faire parce que c'est vraiment génial.
Donc, pour les auditeurs qui souhaitent, qui encore se posent des questions sur les placements, sur de l'épargne, sur la retraite, sur de la prévoyance, des droits de succession, sur l'assurance sous branche, rien que ça.
Ah, ça fait long, hein.
Parce que tout est entremêlé, hein.
On fait de l'approche globale.
Et où est-ce qu'on peut te trouver le cabinet
Je suis
coordonnées ou est-ce qu'on peut vous contacter
Alors bah mes coordonnées, je pense que c'est le plus simple parce que l'agence.
Comme tu veux, comme nom, tu préfères.
Bah mon numéro de téléphone, voilà, c'est 92 24 36, c'est mon portable direct, donc ça. On peut me joindre tout le temps sur ce numéro. Mon adresse mail aussi. C'est guillaume.beckerich@lma.nc. Bon, le nom de famille est un peu compliqué, donc voilà.
Oui, de toute façon, tout sera écrit en note de l'épisode.
Après, faut pas hésiter à m'appeler. De toute façon, le portable, par SMS, par mail. On se met au 2.0, donc je travaille beaucoup par SMS aussi aujourd'hui. Donc,
les bureaux sont à Nouméa, dans le
quartier
Trianon.
Les bureaux sont au Trianon, à côté de la crêperie bretonne. C'est vrai que moi je suis à disposition parce que c'est vraiment quelque chose de particulier. Comme je disais tout à l'heure, très souvent on a peur d'aller vers nous parce que on a cet a priori malheureusement. Et moi j'essaye de casser cette image de conseiller ou en tout cas d'assureur. Moi je suis pas un assureur, moi je suis là pour aider mes clients, je suis là pour leur apporter quelque chose qu'ils auront pas ailleurs. Et après, ça fonctionne, tant mieux. Ça fonctionne pas, au moins ils auront eu des infos et ils pourront s'en servir pour se développer derrière. Donc voilà, moi je pars du principe que on prend contact, on discute.
Exactement. On se pose. Ça fait plus d'une heure qu'on discute.
Déjà.
Si les gens nous écoutent encore à ce moment-là, c'est vraiment qu'ils ont apprécié le podcast et peut-être que ils ont envie de poursuivre la discussion avec toi.
Je les
conseille fortement parce qu'on apprend énormément de choses avec toi et écoute, je te remercie encore pour cet échange.
Merci à toi. Merci.
Si tu veux faire passer un message particulier, c'est le moment.
Un message particulier?
N'hésite pas, ce que tu veux.
N'ayez peur de rien. Foncez. Développez. Voilà.
Super.
Comme on dit, la chance sourit aux audacieux. Et, la chance, en fait, il n'y a pas de chance. C'est qu'on a la volonté de faire ou de pas faire.
Excellent.
Il faut juste se lancer. Il faut juste avoir le courage de se lancer et de s'entourer des bonnes personnes pour réussir. Voilà. Donc, n'hésitez pas. Vous avez des projets. Renseignez-vous et faites-les. Lancez les choses.
Merci Guillaume Beckerich pour ce partage, ton
avec
énergie, ton enthousiasme.
Super.
À très bientôt peut-être.
Ah, quand tu veux. Ça marche.
Si vous êtes encore là, c'est que vous avez sûrement apprécié cet épisode du podcast. Alors, puis-je vous demander un petit service? Laissez un commentaire sur iTunes. Cela aidera d'autres personnes comme vous à trouver le podcast et à être inspiré par les professionnels et entrepreneurs interviewés chaque semaine. Je vous dis merci pour votre écoute et à très vite pour un nouvel épisode du podcast Focus Immo Pacifique. Ciao.